séparés pour saisir un acte qui, lui, ne soit plus relié à la puissance. tout ça là, dans l'étude de la recherche des principes propres de l'être, nous regardons les réussites, nous expérimentons. Nous sommes dans l'horizontal. Horizontal, on ne regarde pas l'acte séparé. Mais les enfants encore horizontal, on peut très bien regarder la manière dont existe l'acte et la manière dont existe la distance, et alors on souligne ici qu'il y a la double relation elle et propre. Je crois que c'est plus juste que ce que je disais la dernière fois, c'est plus dans la ligne même du ligne theta. Dans la ligne même du ligne theta, nous ne sommes pas encore en face de l'acte séparé. Nous sommes en face de la découverte de l'acte à l'intérieur des expériences que nous avons. Les expériences que nous avons, c'est des expériences qui ne sont pas du tout le livre lambda, n'est-ce pas? C'est tout simplement voir ce qu'est l'être qui va vivre à l'être qui va vivre, l'être éveillé à l'être qui dort, c'est-à-dire des choses qui vivent, n'est-ce pas? L'être qui voit à celui qui a les yeux fermés tout en restant dans la vie, qui est séparé de la matière à la matière, alors séparé au sens justement selon le point de vue de ce qu'il y a selon la forme, et ce qui est élaboré selon les formes. Alors nous retrouvons cette double relation. Deuxièmement, nous avions vu la dernière fois, si vous vous souvenez encore, le point de vue de l'infini. Là, je ne reviens pas dessus. Je reviens pas sur cette question de l'infini, simplement en vous renvoyant à la physique, parce que dans la physique, il y a quelque chose de particulièrement intéressant à bien voir comment l'infini pour Aristote avec le livre sont remis en parallèle, et que l'infini ne peut être ne peut pas exister en acte, il ne peut exister en acte que dans la pensée. Et pourtant, ce n'est que le point de vue de l'infini comme tel par la connaissance qui peut être vu de cette manière-là. Et nous arrivons tout de suite alors à ce que Aristote a annoncé dans ce chapitre-ci, le qui de l'acte et le bonheur. Alors je crois que la dernière partie de ce chapitre-ci, c'est le bonheur. C'est intéressant par le problème de l'art. Il faut bien voir ce qu'est ce problème de l'art. Et je crois que dans cette dernière partie, nous avons le problème de l'art. Alors le problème, il faut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire le produit, la qualité. La qualité de l'art. Comment l'art se présente à nous non seulement comme un principe, mais aussi comme ce qui tient. L'art actue et donc tient. Et ça peut être très clair, une chose qui est à l'égard de la politique, ça ne joue pas du tout de la même manière. Or, si nous regardons cette fin du chapitre 6, qui me paraît beaucoup moins importante et qu'on risque de laisser tomber, et qui est pourtant très importante. Parce qu'on pourrait dire que c'est là que nous avons une métaphysique de la pratique. C'est tout ça pour le terme de finance. C'est ça que nous avons une métaphysique de la pratique. Je veux dire, le terme de finance a essayé de rattraper une métaphysique de l'action. N'est-ce pas? Alors, la métaphysique de l'action n'était pas tout à fait, c'est très intéressant de reprendre tout le terme de finance dans la lumière de ce qui est ici. Parce que nous verrions qu'Aristote n'a pas du tout oublié l'action dans le produit métaphysique. Et il n'a pas donné du tout de la même manière. Alors là, c'est toute la question. Je crois que le terme de finance n'a pas fini ce que c'est que l'art de produit métaphysique. La révérence qu'il faut avoir par rapport à ça. Mais au fond, je crois qu'il n'a pas dit que c'était que l'art du point de vue métaphysique. C'est la partie n'a pas dit que c'est que l'art du point de vue métaphysique, mais c'est vraiment une invitation qui vient s'ajouter. Vous voyez, comme quelque chose de second. Alors que pour Aristote, ici, nous sommes en face du commun. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant à suivre. Mm-hmm. Lequel s'existe entre le point de vue analyse philosophique, entre le philosophique, dans une voie très importante, nous sommes. Et le bonheur, lequel est bonheur, c'est difficile à traduire, hein, la qualification, c'est presque le fait, le vide, c'est l'extrême, la qualité, ou qualité de la chose. Le bonheur, on le retrouve dans les catégories à propos de la qualité. Donc, le bonheur. Alors, il faut saisir que la différence entre acte et action, au sens fort, la pratique et le principe de l'acte. Il ne faut pas confondre les deux. L'action n'est pas l'acte, mais d'un coup. Oui, l'action est quelque chose de nous, pour nous, quelque chose de plus concret. Alors, c'est un mode plus concret de l'acte. C'est un thème, un problème par rapport à l'acte. Qui est lui au niveau du principe d'être. Mais il y a quelque chose de très important à saisir, c'est que justement, étant donné la difficulté que nous avons à saisir l'acte comme philosophe, cette méthode. Très grande difficulté que nous avons tenir le point de vue ultime de l'art, la pratique ultime, la pratique qui touche le point de vue ultime. Il est normal que nous venions vers le podium ultime pour saisir ce point de vue ultime. Et pour saisir ce point de vue ultime du podium, alors on va prendre le point de vue de l'action. Mais pas n'importe quelle action. L'action, c'est à nous voir, l'action immanente. L'action immanente indique de toucher quelque chose d'ultime. Oui. Parce que l'action immanente résorbe la succession et permet de toucher quelque chose d'ultime qui va qualifier un être. L'action ultime qualifie et finalise. Un être finalisé par son action. Quand Aristote reprendra dans nos sujets, c'est tout ça qui dépend. C'est dans la pratique, c'est dans l'éthique qu'il faut garder le corps, et c'est toute la philosophie d'éthique qui nous est donnée ici. Alors, dans le point de vue éthique, nous avons le point de vue de l'action, l'amitié, et la contemplation, qui sont les deux grandes actions ultimes de l'activité humaine, et qui finalisent l'homme, et donc qui permettent à l'homme de toucher le plus grand. Vous voyez bien comment nous avons aussi la perspective d'essayer de préciser exactement la différence entre le principe qui est ici, là, et l'intérieur, et le point de vue podium ici, le point de vue là. Alors, je crois que là, il faudrait expliquer la différence entre les deux. Donc, ces deux sont là pour être utiles, mais les deux sont entre les deux. Je crois, dans cette étude-là, l'intelligence entre eux, bien que très vite, moi je vais donner trop, parce que l'intelligence sont souvent posées entre eux, et cependant, comme il y a deux mots, et qu'Aristote a inventé ce mot, c'est souvent pour quelque chose. Alors l'intelligence est beaucoup plus du côté de l'action. L'action, c'est l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'action finalise un sujet. Là, au niveau de l'être, le sujet n'est pas ce que je me regarde connaître. Mais quand je regarde l'application, de l'être finalisé, l'homme finalisé, l'homme est finalisé par son action, non pas n'importe quelle action, l'amitié, la contemplation. Par l'amitié, la contemplation, il touche son bien, sa fin. Et donc, il est en état intellectuel, il est dans un état de finalité, d'être finalisé. Il est dans un état de vie qui a atteint la fin. Je crois que c'est ça la signification de ce premier livre. Alors voici, je vais aller très rapidement, imagine, quand on a compris un peu l'orientation. Parmi les actions dont il y a une limite pérace, faisons toujours attention entre pérace, limite et phénomène. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut bien distinguer les deux. Parmi les actions dont il y a un terme, aucune n'est fin. Donc l'homo, pérace et phénomène. Et c'est très important de bien voir les différences. Donc parmi les actions dont il y a un terme, aucune n'est fin, mais en début fin. Donc, le pérace, la limite, le terme, si vous voulez, d'une action, c'est que cette action devient l'action. Grâce à la limite, l'action devient l'action. Et donc, l'action n'est pas ça. Elle est relativisée par cette limite. Elle possède en elle une limite. Mais en plus, une fin. Par exemple, alors ça c'est un exemple que nous devons très très bien comprendre. La fin même du fait de maigrir. Et la maigrissement, on peut très bien. C'est la fin du maigrissement. Les mêmes êtres, lorsqu'ils maigrissent, sont en mouvement sans être la fin de mouvement. La maigrissement, c'est pas envie de maigrir, c'est pas envie de maigrir. Donc la finalité n'est pas la maigrissement. Et donc le terme est en dehors. Alors, ces réalités ne sont pas actions achevées, car il n'y a pas de fin. Elles sont une pérace, elles sont une limite, elles n'ont pas de fin. Tandis que faire, où se trouve la fin, donc le théorème. Alors c'est la pratique au sens fort, c'est l'action achevée. Alors là on veut dire pratique au sens très fort, c'est l'action achevée, c'est-à-dire une action télévisante, une action parfaite. Par exemple, on voit et on a vu, on pense et on a pensé, on intellectue et on a intelligé. Donc on est en face d'une action immanente. Parce que l'action maintenant possède en elle-même, si vous voulez, sa propre finalité. Mais il est faux de prétendre qu'on apprend et qu'on a appris, qu'on guérit et qu'on est guéri. Alors qu'on doit dire, on vit bien, on a bien vécu. On est heureux et on a été heureux. Là, maintenant, je meurs. Sinon, il faudrait que cela cesse une fois. Il faudrait faudrait nécessairement, si on dit bien qu'on a bien vécu, que ça dure. Alors, puisque ça dure, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Une action de maintenant comme une action de maintenant, en tant qu'action de maintenant, comme action de maintenant, ça n'a pas vraiment cessé. Tandis qu'une action transitive a un terme. Comment tu fais la distinction que le scolastique prendra entre l'action transitive et l'action de maintenant? L'action transitive est une action qui a un terme et qui elle-même s'achève. Elle a un terme, c'est rare. Mais elle n'a pas de finalité. L'action de maintenant, elle n'a pas de limite. Et là, c'est là. C'est très joli, la distinction entre Péra et Péra. Vous voyez, tout simplement entre les deux. Et alors vous voyez bien que la limite Péra est quelque chose qui vient dans l'action transitive successive, la succession, qui fait que nécessairement elle ne peut pas avoir un ça, ou ça, elle est nécessairement l'intermédiaire. Tandis qu'au contraire, dans l'action immanente, alors là, il y a une finalité. Donc, dans l'action immanente, il n'y a pas d'arrêt. On est au-delà du temps et au-delà du devenir. Donc, parmi les actions, donc, tout simplement, Aristote, c'est cette distinction entre les deux espèces de pratiques, des actions qui incluent quelque chose d'achevé et des actions qui sont essentiellement inachevées. Des actions qui impliquent nécessairement un terme. Alors, prenez l'amaigrissement et le fait de voir. Réfléchissez sur la différence entre l'amaigrissement, la diète qui est faite pour amaigrissement. Bon. Ça ne doit pas durer tout le temps. Ça interdit. On est nécessairement, ça interdit. Dans l'intérêt, ça interdit. Depuis un certain temps, ça veut dire que c'est suffisant. Tandis que quand vous voyez, ça n'a pas de sens. Vous dites pas que c'est suffisant. Vous dites que c'est suffisant pour autant de choses. Parce qu'il y a quelqu'un d'un à côté de vous qui voit une bonne contemplation devant un tableau en regardant tout le temps, et qu'elle est même avant. Et ça, c'est extrinsèque à l'intérêt. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Parce que dans l'intérêt, c'est essentiel à l'intérêt d'avoir un sens. Donc, c'est l'allégrissement à qui paiera une vie. Ça n'a pas de finalité. Tandis qu'au contraire, voir, alors là, si je passe une vie, c'est une fin. Je vois pourquoi, on est joyeux pourquoi. On est joyeux quand on voit. Quand on voit. Ça, c'est ce qu'Aristote souligne au début de l'Éducation. On a de la joie à voir, tandis qu'on n'a pas de la joie à voir. Pour l'allégrissement, par rapport aux joies, ça c'est beaucoup. Mais pour l'allégrissement comme tel n'implique pas la joie, tandis qu'au contraire, voir implique la joie. Donc, parmi les actions, les unes sont des mouvements qui les vivent. Les autres sont très bienveillants. C'est très important. Donc, nous voyons ici cette distinction qui se fait entre le point de vue de l'action pratique, qui implique et émerveillante. Elle est liée à l'art. Elle n'est pas une kinésie. Donc elle n'est pas un mouvement, c'est-à-dire un devenir, une action transitive. Ce qui montre bien que pour Aristote, l'action transitive, c'est-à-dire le mouvement kinésique, peut à la fois être du acte et aussi être du non-acte. Ce sera aussi le très haut du fait. De temps en temps, Aristote dira que la kinésie, le mouvement est un acte, que c'est l'acte de ce qui est apparté, en tant qu'il est apparté. Donc, la kinésie est bien une modalité de l'art. Mais il faut bien reconnaître que cette modalité de l'art est toujours imparfaite parce qu'elle n'a pas sa finalité en elle. Et donc, elle a une espèce de contradiction. Oui. C'est un acte qui ne possède pas sa fin. Or, l'art, c'est la fin. Vous voyez, ça, c'est assez difficile. C'est très intéressant, par ça, parce que c'est très intéressant, ça montre bien ce que c'est que la kinésie, par ça. Ça montre bien ce que c'est que le mouvement, par ça. Ce mouvement implique là, il implique là, je dis toujours le point du mouvement là. Mais ce cet acte qui est dans la perception, qui est dans la substance, c'est que cet acte, parce qu'il est tellement dans la substance, il ne passe pas sa finalité. Il ne passe pas ses lances. Et donc il reste toujours imparfait. Et donc il reste la dernière modalité de l'art. Le dernier résidu de l'art, c'est le mouvement. Et c'est le premier que nous connaissons. Première connaissance que nous avons là, c'est le mouvement. Dans notre expérience. Et c'est le dernier résidu là. Alors vous voyez, si nous ne respectons pas ce qui est premier dans l'ordre du commencement, du conduit dans le temps, dans l'ordre génétique, comparativement au premier dans l'ordre de perfection, parce que c'est là où nous faisons mieux, alors vous voyez, tout ce que nous pouvons faire, nous n'arrivons jamais à dire ce que c'est là. C'est là que nous fait le mieux comprendre la différence entre les deux. Le premier que nous connaissons dans l'ordre génétique, le premier acte que nous connaissons, c'est là du mouvement. Et cet acte de mouvement, c'est un acte à part. C'est un acte qui ne procède pas à part. Le dernier que nous connaissons, c'est au temps métaphysique, dans l'ordre d'interception. C'est là, c'est là. Vous voyez, comme ça implique des purifications, pour passer du mouvement à l'acte de puisque Théos se porte toujours dans le mouvement. Je suis simplement pour vous montrer combien c'est difficile comme ça, penser à ça. Parce que si je prends certains endroits, comme ici, si je prends ce lieu, Aristotira, le point de vue, la kinétique, c'est pas là. Si l'on pose le mouvement, il est là. Si l'on pose le mouvement, donc parmi les actions, les unes sont des kinétènes, les autres sont des kinétènes. Donc il oppose mouvement et acte. Et d'autre part, quand il définit le point de vue du mouvement, il définit le mouvement dans le vue de l'acte. C'est tout simplement une perspective différente. Ici, il veut faire toucher du doigt l'acte implique Théos. Et donc, si l'acte implique Théos, il faut bien le regarder à l'intérieur de l'action immanente, qui seule possède le point de vue d'acte. Si je le regarde dans une action transitive, je ne le verrai pas. Tout de suite, parce que tout ce qui existe, donc tout mouvement, est inachevé, par ses donc c'est sans fin. Il n'y a pas de finalité dans le mouvement. Ça, c'est une chose très importante pour Aristote, qui souligne, pour l'éviter, et qui est très très importante chez lui. Ça, c'est une vision extrêmement importante de bien voir. Et c'est là où on voit très bien la perspective avec Platon. Pour Platon, pas d'intelligibilité dans le mouvement. Pour un top intelligibilité en mouvement. Et le mouvement ne touche pas la finalité. C'est comme c'est un des grands problèmes grecs. C'est toujours le problème grec, c'est quand même toujours le problème de l'être et du venir, et de l'individu. Pour le grand problème, ça c'est intéressant de toucher une finalité, c'est très précis dans le temps, c'est pas, depuis par les communes, hein, le mouvement, le devenir, le mouvement, ce qui est lu. Ce qui est lu, est considéré comme en dehors de la science, en dehors de l'intelligibilité parfaite. Et pour Platon, c'est un problème constant, mais quand même, le point de vue du mouvement est en dehors de la connaissance de l'éthique scénique. C'est en dehors de la science, en dehors de la philosophie. Aristote réintroduit le mouvement, ce qui est mis en philosophie. Donc, il y a une intelligibilité propre. Et une intelligence parfaite. Une intelligence propre et parfaite, il y a un principe. Il y a un principe et une intelligence parfaite, c'est la nature. Et la nature, c'est comprendre ce que c'est que le mouvement. Donc c'est fini. Donc il y a un principe immanent à ce mouvement qui nous donne l'intelligibilité de ce mouvement. Mais Aristote ajoute, lorsqu'il s'agit du bien, donc ce titre dans la vie de l'intelligibilité. Lorsqu'il s'agit du bien, la quantité, le mouvement, c'est le bas. La cohérence, la nature, c'est pas. Le mouvement, c'est pas. L'énergie, c'est pas. Le temps de vie, c'est pas. Pratiquement. Tandis qu'Aristote, quand il trouve le mouvement, c'est pas. Et si le mouvement n'atteint pas sa fin, il est impérieux. Donc, il est en dehors de la finalité. Vous ne pourrez jamais saisir la finalité dans le mouvement. C'est très loin, ça. Mais comme c'est intéressant par rapport à toutes les connaissances qui ne regardent que les êtres humains. Toutes les connaissances qu'il regarde que les connus ne pourra pas saisir, ne pourront pas saisir la finalité. Arrête de les dire, vous n'allez pas seul, vous allez dire toute la fin. Oui, il faut justement quitter la nature, il faut justement quitter le mouvement pour saisir la nature. Au niveau du principe du mouvement, nous touchons la finalité. Mais au niveau du mouvement comme tel, pas que. Donc le mouvement comme tel n'a pas de finalité. Donc si le mouvement comme tel n'a pas de finalité, je ne peux pas, à travers le mouvement, saisir le point de vue du bien. Il est essentiellement en dehors du point de vue de la perception et de la perception. Le mouvement comme tel. Hein? Je ne peux pas dire que le mouvement comme tel est bon. Vous voyez, c'est rapide. C'est pas bon. Vous voyez, c'est la rapidité du qualité du mouvement. Mais la vitesse du qualité du mouvement. Ça dit que ça veut dire que le mouvement est bon comme tel. Donc, car tout ce qui est dit est inachevé, inachevé. L'étude, la marche, c'est quelque chose qui, justement, de ce fait, implique quelque chose qui implique le point de vue du mouvement. Il y a une succession qui empêche une manœuvre. Tandis qu'il y a le maire qui voit et bien lui qui pense et qui va et qui a pensé. Dans la pratique parfaite au contraire, où il y a immanence, alors à ce moment-là, il y a au contraire la perfection. Il faut l'immanence dans le point de vue de l'action pour qu'il puisse atteindre sa fin. Donc, je crois que c'est très important cette fin de ce chapitre 6 pour nous faire comprendre l'application pour nous du mouvement à l'action. Oui, on pourrait appeler ça. Grâce à la métaphysique de l'acte, je peux faire un discernement très vivace entre ce que représente l'imperfection du mouvement de la succession et la perfection d'action. Parce que justement, la perfection d'action implique le fait d'atteindre le point de vue de l'humanité. Passons tout de suite au chapitre 7, et je vais très rapidement. Le chapitre 7 est un chapitre très curieux. On s'attendrait à ce que le chapitre 8 vienne tout de suite. On peut se demander pourquoi il y a le chapitre 7. Parce que le chapitre 7, c'est un chapitre qui va regarder le point de vue de la puissance. Après avoir regardé l'acte, d'une certaine manière, on a regardé quand même quelques aspects de l'acte, on va regarder la puissance. Et on va montrer que le point de vue de la puissance implique une intelligibilité très particulière. Tandis que le chapitre 8, c'est beaucoup plus intéressant que le métaphysique, que le chapitre 7, le chapitre 8, c'est l'antériorité de l'acte de la puissance. Alors c'est un chapitre très important. C'est un chapitre très important. Le chapitre 8 joue un rôle extraordinairement important dans toute la perspective aristotélienne. Toujours la question de l'ordre, hein, c'est tellement grec. Alors quand on peut voir ce qui est antérieur et ce qui vient après, c'est extrêmement important de saisir exactement les liens entre les deux. Et le chapitre 8, je crois, nous donne tout le fondement du principe de causalité au niveau humain. Ça, c'est sûr. Si nous voulons saisir vraiment ce que c'est que le principe de la causalité au niveau de l'être, c'est le chapitre 8 qui nous en fait comprendre la intelligibilité. Et là, nous sommes vraiment au point de vue du fondement radical de ça. Parce que c'est l'antériorité, c'est de comprendre que la puissance comme telle est radicalement dépendante de l'art. Donc si on comprend que la puissance est radicalement dépendante de l'acte, la puissance au niveau métaphysique, c'est-à-dire une puissance existe, pas le possible logique, mais la puissance existe. Alors, toute réalité existe en puissance dépend de l'acte. Ça, c'est le chapitre 8 qui donne le principe de causalité, le fondement du principe de causalité. Aristote de l'Église ne l'explique pas. Pour lui, la causalité, ça est tellement important. Alors pour nous, ça ne va plus du tout de soi. C'est pour ça que nous devons l'expliquer. Bon, pour nous, ça arrive tellement de soi, parce qu'on dit que ce n'est pas le signe, il n'y a pas de. Il dit toujours, pour tous les philosophes, on cherche la causalité. Et on comprend très bien qu'il revient tout le temps sur la causalité, mais il ne nous donne pas, si vous voulez, au fondement Christon, le fondement ontologique de la causalité. Il ne donne pas. Dans la philosophie de la nature, il nous montre la nature principe de cause, si vous voulez, du mouvement, principe immanent du mouvement. Il n'explique pas. Ici, au plan métaphysique, il n'explique pas non plus. Alors que ce fait, il donne tous les éléments du sens. Je crois que c'est ça la question de l'intelligence nous voulons la composition, les résultats, nous gardons les conclusions. Aristote n'en garde pas les conclusions, mais garde physiquement creuser, trouver le fondement, il faut qu'il en alors, le chapitre 7, il faut déterminer, alors, autre chose, il faut déterminer quand chacun est dans le temps. Donc, il faut déterminer quand chacun est dans le temps. Et le point de vue de la détermination particulière de ce que représente la réalité de la puissance. Il faut déterminer quand chacun est en puissance et quand il ne l'est pas. Donc c'est le fausseté. Quand il s'agit de l'art, nous avons le fausseté. Et quand il s'agit de la puissance, nous avons le fausseté. Vous voyez bien la différence. C'est que le fausseté qualifie l'art et le fausseté qualifie la puissance. Alors ça veut dire le temps. C'est très intéressant parce que c'est le temps. L'acte échappe au temps, dans la mesure où il est là. Et la puissance est dans le temps. D'où elle est conditionnée par le temps. Elle est conditionnée par le temps. C'est pour ça que quand il s'agit de la puissance, il faut toujours préciser le côté. Savoir quand le fait est dans le temps. À quel moment il est dans le temps. Autrement dit, la puissance Quand je regarde une réalité en puissance, elle est essentiellement conditionnée. La puissance est toujours essentiellement conditionnée. Je ne peux pas réduire ce que c'est une puissance sans saisir son conditionnement, sans saisir son cause, sans saisir sa place dans le temps. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'acte est essentiellement au-delà du conditionnement que sa pratique. La pratique n'est pas conditionnée. Il est au-delà. Le propre du pratique, c'est justement d'expédier immédiatement en lui-même. Et alors, s'il s'agit de ce pratique ultime qui est là, qui touche le point de vue de la finalité, évidemment, je suis au seul conditionnement. Parce que s'il y a plus de conditionnement, alors la seule chose qui vient permettre, c'est de qualifier là. De qualifier là. En voyant sa modalité. De qualifier là, en voyant sa modalité. Ce mode particulier, c'est le qualifier. Et sa première qualité, c'est de dire action. L'acte est action pour moi. C'est là où je dédie la séduction. La scolarité dira l'acte second. Oui, l'acte premier, l'acte second. Bon, mais il faut les deux choses. C'est l'acte second qui fait mieux saisir ce déjà. Les activités. C'est pas le fait. Au plan des activités. Au plan des activités. Au plan biologique, c'est l'effet. Mais pas au plan négatif. Au plan négatif, c'est l'acte. Alors c'est très important, c'est ça, tout ça, c'est parce que nous sommes à équilibrer le corps autrement. Alors il faut quand même essayer de voir la question au point de vue profond. Vous voyez, s'il nous reste, parce qu'au point de vue métaphysique, hein, je ne parle pas au point de vue de la théologie naturelle, mais au point de vue de la perspective du théologien. Mais au plan métaphysique, au plan métaphysique, pour saisir ce qu'il y a d'ultime, je le saisis par la suite. La contemplation ou la vie. Là, je saisis que tandis que mon jugement d'existence ne fait jamais saisir sa justice. Il fait saisir la profondeur de l'art, l'art substantiel. La profondeur de l'art. Alors voyez, si vous regardez attentivement ce chapitre 6 d'Aristote, vous voyez que ce chapitre 6 est construit devant deux aspects de l'art, deux grandes modalités, ce qui est très important de dire, les deux grandes modalités de l'art. La première modalité de l'art est donnée au mois de départ, 1048 ans. Oui, là, c'est le simplicité de la chose. Oui, là, c'est le simplicité de la chose. Donc la première modalité, c'est l'esprit. Et puis, lorsqu'il s'agit, après avoir fait l'art dans tout son esprit, voir son point de vue, il voit que la modalité, le point de vue de l'art, c'est la chose. La scolastique dira, c'est un toujours pour que vous voyez les paramétismes et que vous reveniez au décanté, ou pas vous reveniez aux sources. Alors vous avez acte premier, acte second, parce que c'est dangereux. Très dangereux, parce que ça fait la qualification. Ça fait la qualification de l'acte. Ça fait acte second, acte second, vous tombez dans une espèce de numérotation, alors que l'acte, par définition, ne substitue plus de numérotation, c'est un ordre. Alors vous avez donc tout le livre 6 qui commence par le fait de ce que nous appelons l'esprit, le fait de l'existence, le tout y parcelle tout fragment. Le tout y parcelle, le fait d'exister. Donc c'est l'acte au niveau substantiel, l'acte substantiel. Et puis, quand on veut préciser le point de l'outil, donc c'est ultime de la qualification de l'acte, on voit que c'est le point de donc on peut dire que la métaphysique de l'acte ne peut jamais séparer ces deux aspects extrêmes de l'acte. L'acte, je le saisis toujours à partir du fait de l'existence, et je le saisis toujours à partir de son point de vue de l'existence. Et je le triomphe, de force, si vous voulez. Et je ne peux pas m'en séparer. Il faut que l'on ait analogiquement. Si on connaît l'acte analogiquement, je suis obligé tout de suite de revenir au point de vue. Parce que si je reste uniquement dans l'acte comme principe, je risque, étant donné ma faiblesse intellectuelle, de ne pas tout de suite imaginer. Alors, pour ne pas imaginer, il faut tout le temps revenir à ces deux bords. Le point de vue, le fait de l'effet, l'effet, l'action. Et bien alors là, vous voyez, c'est comme ça. Le point. Ça, c'est, je crois que c'est très important. Ça nous fait bien saisir comment le point de vue ultime de l'acte pour nous n'est pas l'effet. Le point de vue ultime de l'acte pour nous, au plan de la vie, et dans la perspective d'Aristote, c'est très clair, c'est le point de vue de l'acte comme principe. Et dans sa manière, ce qui est ultime pour nous dans sa manière de l'exister, dans son fondamentalisme, c'est l'action. C'est pas l'action. Ce sont par les faits qu'on risque de matérialiser. Et de ne pas se dire assez le caractère pilote de l'action. L'acte, c'est ça. On oublie ça. Et bien évidemment, quand on regarde le point de vue de l'esprit, on oublie que le point de vue de l'art, c'est le point de vue de l'homme. Alors, on revient à l'ombre de l'esprit, la consistance de l'esprit de l'esprit. Alors, l'orthophagie, donc ceci, c'est pour rappeler, en fait, rappeler que l'orthophagie, au contraire de la puissance, on garde le corps, le poste, le corps. Il faut déterminer quand chaque être est en puissance et quand il ne l'est pas. Donc, les zones, on est en puissance à partir d'un certain moment et on est en puissance jusqu'à un certain moment, oui, conditionnement, comme c'est nécessaire. La puissance est essentiellement conditionnée. Je ne peux pas parler d'assistance au sens métaphysique sans garder conditionnement. C'est pour ça qu'elle est une existence puissante, car à un certain moment, il s'appelle une structure puissante. Car ce fait n'arrive pas n'importe quand, le fait d'être en puissance, n'arrive pas n'importe quand. Par exemple, la Terre est-elle l'homme en puissance, ou plutôt quand elle est devenue seulement. C'est un très bel exemple pour montrer que ce fait. Le point de vue de la puissance sera la bataille d'Aprima. Je vais le dire après. Hein? Au fond, ce chapitre va vous donner la métaphysique de la bataille d'Aprima. On va voir la métaphysique de la bataille d'Aprima. Comme on a la métaphysique de l'action, on a la métaphysique de la bataille d'Aprima. On peut regarder métaphysiquement la bataille d'Aprima, pas au niveau de la philosophie de la vie, mais au niveau métaphysique. Alors, quand on regarde la bataille d'Aprima au niveau métaphysique, c'est vraiment la potentialité ultime et dernière. C'est une potentialité qui est quelque chose qui échappe d'une certaine manière au sens, d'une certaine manière. Mais elle n'est pas en puissance au sens absolu, puisque être en puissance, c'est être justement prêt à devenir autre chose. Alors, on doit toujours préciser le point de vue de la puissance prochaine, le point de vue conditionnement. Ce qui est capable, car ce fait n'arrive pas n'importe quand, ce qui est capable d'être rendu à la santé au sein en puissance. Encore un autre exemple de l'Aristote. C'est un exemple que nous comprenons bien. C'est capable de rendre la santé au sein en puissance. Quelqu'un qui est un mort vivant, il n'est pas sain en puissance. La santé est loin de rendre. Alors il n'est pas en puissance. Il est encore assez loin. Tandis que celui qui est en convalescence est dans la santé en puissance. Le passage de celui qui devient à partir de la puissance à l'acte, par le raisonnement, lorsque ce que l'artiste veut arrive, sans qu'aucun obstacle n'intervienne. Et lorsque du côté de celui qui guérit, rien n'en lit qui oppose. Et cette phrase est vous l'a dit textuellement, telle qu'elle est donnée, parce que c'est un état de substitution comme ça. Alors on voit bien ce qu'il veut dire. On veut essayer de comprendre toujours ce que c'est d'être en puissance. Et il montre que ce qui est d'être en puissance implique le conditionnement et donc implique le point de vue du temps. Alors, il donne encore ce point de vue, cet exemple, le passage de celui qui devient à partir de la puissance, donc celui qui devient à l'art, à partir de la puissance, par le raisonnement, bien de là. Donc, tout simplement, le voisin. Ça, c'est pour nous les gens. On va dire sculpteur, puisque c'est de la terre, cette terre est toujours en puissance hermès. Elle est toujours en puissance. Elle est dans puissance et pour qu'elle puisse passer à l'acte, elle peut passer à l'acte par le raisonnement. Il faut que l'artiste intervienne. Lorsque ce que l'artiste veut arrive, devient, sans qu'aucun obstacle intervienne. Pour qu'il puisse y avoir passage de la puissance à l'acte, puisqu'on ne détermine la puissance en dépendant à l'égard de l'acte, pour que vous puissiez dire ce marbre et Hermès en puissance. Pas quand vous voyez le mot les ondes, vous n'allez pas dire que c'est Hermès en puissance. Ça n'a aucune signification. Aucune signification de ça. Tandis que vous voyez un morceau de marbre avec l'artiste qui est en train de travailler, vous dites que c'est Hermès en puissance. Elle est une expression en puissance. Ça vous pouvez dire. Très important. Très important de dire ça. Il faut donc un conditionnement particulier pour que vous puissiez dire que cette réalité est en puissance. Quand vous voyez un morceau de bois, vous n'allez pas dire que le bois que vous voyez, que vous touchez, oh, c'est une statue en puissance. Mais ça, c'est les dévots qui disent alors, vous ne voyez pas en puissance. Ah, ce bois, c'est une statue en puissance. Mais non, c'est rien du tout. En fait, c'est une idéologie. Ça ne dit rien du tout. Parce que vous ne pouvez parler de la puissance en fonction de l'art. Ça ne dit rien du tout. Donc, il faut que cet artiste soit en train de discuter. Si vous êtes en train de discuter ce bois, alors, très bien, ça peut être partie de la tente des cours. Je ne le vois pas. Alors on inscrit quelque chose sur le doigt. Alors à ce moment-là, vous pouvez dire que je dois faire cette lettre à inscription que vous travaillez. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que dans ce conditionnement particulier, il est en puissance. Et il n'y a aucun obstacle. Parce que si jamais il y a un obstacle, ça va beaucoup. C'est un obstacle qui empêche l'artiste de travailler le doigt, il est plus en puissance. Oui, comme la puissance, l'état d'être en puissance dépend de l'art. On est en puissance en dépendant de l'art. On est en puissance indépendamment de l'art. Je ne sais pas si ce que le doigt le chêne vous pousse, il est statué en puissance. Ça n'a aucune limite. Si le doigt fait ça, le doigt c'est autre chose. Il sera en puissance dans la mesure où il sera indépendant de l'art. Et donc quand il y aura cette dépendance directe et quand il n'y aura aucun obstacle. S'il y a l'obstacle à dernier, déjà le point de vue de la puissance est limité. Par exemple, la maison donne tout du péril des enfants, on a compris, c'est la même chose pour les enfants, c'est toujours la même chose. Alors il arrive à dire, mais il y a l'état de puissance qui est radicable, l'état de puissance tout à fait premier, c'est le point de vue de la matière première, et la matière première c'est puissance matérielle. Je souligne le fait, parce qu'il est assez curieux dans la langage d'Aristote, et intéressant. C'est 1040 à 36. En fait, le sujet dérivé, c'est une matière et une substance matérielle. Où il y a oublié. C'est une substance matérielle. Alors quand on sait que tout le souci d'Aristote par rapport à l'Ilia, c'était de montrer justement qu'il n'y a pas le principe propre de l'être qui soit la matière. Dans la perspective de l'art, on peut dire que la matière est une substance matérielle. Une fois qu'on a besoin d'oublier. Parce qu'il a bien précisé qu'on peut parler de la puissance qu'en fonction de l'art. Si on peut parler de la puissance indépendamment de l'art, alors la puissance matérielle constitue le maître. Elle ne constitue pas l'être parce qu'elle est en puissance en fonction de l'art. Alors la prochaine, nous verrons de cette